vont l'hiver, ainsi vont les si et les mais pourtant, ainsi va la vie comme un invité mystère.
Irène Finkel, bonjour, bienvenue dans l'émission Ainsi va la vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurence Arribagé. Bonjour Laurence.
Bonjour Irène.
Laurence, vous êtes née le 25 mai 1970 à Albi, vous avez donc 49 ans. Vous avez effectué votre scolarité au collège et au lycée à Carmaux, puis des études à Toulouse. Vous êtes diplômée de l'Institut d'études politiques sur la promotion 1991. Vous êtes également titulaire d'un DESS, Administration et gestion de la communication. Vous devenez chargée de communication auprès du Conseil économique et social régional de Midi-Pyrénées. Vous travaillez au Conseil régional de Midi-Pyrénées comme attachée de presse avant de vous consacrer à l'éducation de vos trois enfants. Républicaine, proche de Nicolas Sarkozy, vous êtes depuis 2014 deuxième adjointe à la mairie de Toulouse en charge des sports. Bien sûr, je pourrais citer vos différents mandats au cours de votre carrière politique et nous en parlerons éventuellement au cours de l'émission. Mais ce qui m'intéresse avant tout, Laurence, quel style de petite fille étiez-vous ?
Je crois que j'étais une petite fille joyeuse, heureuse, choyée, protégée, coucougnée, une vie de famille très équilibrée, avec une sœur de 11 mois de moins que moi, donc forcément, ça m'arrive souvent de dire « nous ».
Oui, vous avez été élevée comme des jumelles, j'imagine.
On a été élevées comme des jumelles, ma sœur avait un an d'avance, donc on a fait toute notre scolarité jusqu'à l'université dans la même classe, avec nos parents comme enseignants dans les petites classes. Donc une enfance très heureuse, malgré un accident de la vie pour mon papa en 1975, qui forcément crée une rupture dans notre quotidien. Mais malgré tout cela, on a été, ma sœur et moi, extrêmement protégées. Donc je crois qu'on peut dire qu'on a été deux petites filles heureuses de vivre.
Alors, quand on a une sœur, qu'elle soit plus grande ou plus petite, en principe, et qu'on est une fille, logiquement, c'est la première future femme sur qui on se fait les dents en tant que future femme soi-même. Le fait d'avoir été dans la même classe que votre jeune sœur, ça ne vous a pas donné des envies de meurtre, entre guillemets. Il n'y avait pas de la jalousie par rapport aux petites camarades de classe, parce que ça doit être difficile quand même d'être toujours dans la même classe que sa sœur.
C'est rigolo que vous me posiez cette question, parce que quand on avait ma maman comme enseignante, je voulais toujours être première en tout. Et puis, quelquefois, ma sœur, qui était en retard sur rien, avait de meilleures notes que les miennes, en dictée, je me rappelle, à l'époque. Et je me souviens encore récemment, ma sœur, qui a rappelé à ma mère que ma mère baissait un petit peu la note de ma sœur. Pour pas faire d'histoire,
c'est
réalité,
très mignon.
Et pour que la hiérarchie de la fratrie soit
respectée,
préservée. Mais en réalité, non, je crois qu'il n'y a pas eu de jalousie entre ma sœur et moi. On s'entend comme des jumelles, vous l'avez dit. On habite encore à quelques mètres l'une de chez l'autre aujourd'hui. Et je crois que...
C'est votre meilleure amie.
Oui, c'est ma meilleure amie, ma sœur. Ouais.
C'est magnifique, ça. Il y avait de la place pour les autres petites filles, alors ?
Oui, parce qu'on avait quand même nos copines. Chacune de nous avait ses copines. Quelquefois, les clans de l'une ou de l'autre se retrouvaient. Mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup vécu en vase clos, parce qu'on se suffisait à nous-mêmes très souvent. On faisait le même sport, on allait dans la même école, puis le même collège, puis le même lycée, puis on a passé le bac en même temps.
C'est-à-dire que non seulement vous avez évidemment vécu avec votre sœur, mais en plus d'avoir été toujours dans les mêmes classes, vous avez fait également les activités extrascolaires ensemble, vous me dites.
Tout en UNSS, Albi Gym, notre club de gym pendant une quinzaine d'années. Oui, on a fait le même sport, les mêmes activités, c'est rigolo.
Quel était ce sport ?
La gym.
La gym.
La gym pendant une quinzaine d'années à Albi, et c'est rigolo parce que j'ai... quelques années plus tard, j'ai eu des jumeaux, garçon-fille, et je crois qu'ils sont totalement différents. Ils sont plus différents et plus indépendants l'un et l'autre que je ne l'étais avec ma sœur. Alors que
ce sont de vrais jumeaux que vous avez ?
Non, de faux jumeaux, c'est un garçon et une fille.
Ah, garçon et fille, oui, pardon, excusez-moi. Garçon et fille. Alors revenons à vos jeunes années. On vient de dire que vous avez donc fait du sport pendant une quinzaine d'années. Avez-vous également appris la musique ? Un instrument ?
Non, Pas du tout. Pas du tout. C'est un regret quand même ça dans ma vie parce que...
Vous savez qu'il n'est jamais trop tard.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Peut-être que dans quelques années,
qu'est-ce qui vous
aimerait ? J'adorerais faire du piano.
Oui.
J'adorerais jouer du piano.
Vous aimez l'écouter ?
Ça rejoint d'ailleurs mes goûts musicaux dont voilà. On pourra parler tout à l'heure. Mais oui, j'adore écouter le piano. J'aimerais jouer. Quand ma fille m'a dit... qu'elle ferait du piano, qu'elle allait faire du piano. Je regrette qu'elle ait arrêté depuis, mais l'écouter, c'était un vrai bonheur, une vraie parenthèse en réalité. Le piano, ça apaise. J'ai plutôt un caractère qui nécessite d'être apaisé quelquefois. Et je crois que le piano, oui, c'est peut-être un regret, la musique. On ne pouvait pas tout faire. On avait 4-5 entraînements de gym par semaine. On a fait le choix du sport et des études. Et du coup,
Alors, c'est vrai que le sport, quand on est enfant, c'est un bon moyen... de se défouler physiquement, mais c'est vrai que la musique, c'est aussi un bon moyen de canaliser ses émotions.
Oui, en l'écoutant aussi.
En l'écoutant. Si vous avez appris à l'écouter enfant ?
Ah oui, on écoutait beaucoup de musique enfant.
Votre maman ?
Ma maman, mon papa avaient des goûts qui sont les miens aujourd'hui. Hein. De toute façon, ça, c'est assez inéluctable. Donc, c'est vrai que j'ai passé mon enfance à entendre Brel, Brassens, Ferrat, Barbara... Schiller, Sanson. Donc forcément, ça a influencé...
Chansons à texte.
Oui, des chansons à texte, avec des mélodies, avec
bien sûr.
Des instruments aussi. Mais c'est vrai que ça a forcément forgé mes goûts actuels au grand désespoir de mes enfants qui préféreraient que j'écoute Jules ou Nekfeu. Mais pour le coup,
je connais même
mes,
pas.
Goûts, mes goûts ne sont pas les leurs.
Et voilà, c'est ça. Il y a une génération de différence. Alors, quelle a été, dans votre famille, votre éducation religieuse ?
Alors, j'avais ma grand-mère maternelle, que j'ai hélas perdue beaucoup trop tôt, qui était une croyante, pratiquante, catholique. Et il n'y a pas un dimanche entre mes 4 ans et peut-être mes 18, qu'on quitte le cocon familial à côté de Blaye-les-Mines, où elle ne klaxonnait pas le dimanche matin pour embarquer ma sœur et moi à la messe du dimanche. Elle nous a enseigné la religion, elle nous a enseigné le catéchisme, on a fait notre communion. Je suis devenue beaucoup moins pratiquante depuis,
mais
depuis
quand
que j'ai
même
plus ma grand-mère, mais j'ai eu une éducation religieuse.
Mariée à l'église ?
Oui, je me suis mariée à l'église, oui, tout à fait. J'ai baptisé mes enfants, mariée et les baptêmes de mes enfants... à la Dalbad, pas très loin d'ici. Oui, c'est quelque chose à laquelle je suis très attachée, sachant que
Alors, vous dites que vous êtes très attachée. Alors, vous ne pratiquez pas, mais vous avez été toujours croyante, vous l'êtes encore aujourd'hui.
Oui, je suis.
C'est quelque chose d'important pour vous ?
Oui, dans lequel certainement je me réfugie dans les moments plus compliqués, mais à tort, certainement. C'est quelque chose que je n'impose pas aux autres, que je n'ai pas imposé à mes enfants, qui... bien qu'ils soient allés dans une école privée quelques années, ne pratiquent pas du tout la religion catholique. Mais à la fois, je ne l'impose pas non plus à mon mari, qui lui n'est pas du tout pratiquant et ne l'a jamais été. Je lui ai imposé le mariage à l'église. Mais pour le reste, ça fait partie... La religion, ça fait partie de l'intime. Voilà. Et c'est vrai que moi, ma grand-mère... ma grand-mère accompagnait les malades à Lourdes jusqu'à la fin de ses jours, même quand elle était très malade. Et à la fin de sa vie, c'est nous qui l'avons accompagnée à Lourdes avec ma mère et ma sœur. Et du coup, c'est des moments qui marquent la jeune fille que j'étais. Voilà, mais c'est, encore une fois, ça relève de l'intime.
Vous avez dit que vos parents étaient professeurs des écoles, donc. Ils avaient donc toutes les vacances scolaires, hein. Est-ce que vous avez beaucoup voyagé avec vos parents étant enfant ?
Alors, oui, bien sûr, parce que comme nous étions avec ma sœur, fille de prof, on avait les vacances scolaires rythmées l'année scolaire. Ils n'aiment pas quand je dis ça, mes parents, mais effectivement, on était rythmés, donc on avait des rituels. Donc, on n'est pas parti à l'étranger. J'ai voyagé beaucoup plus tard quand j'ai rencontré mon mari et puis depuis. Mais ce qui est certain, c'est que... On avait un rituel à Noël et en février, nous partions au ski, toujours au même endroit. À Pâques, nous partions dans la famille de mon grand-père, à Cavalaire, sur la Côte d'Azur. Et tous les étés, sans exception, je pense, de mes 2 ans à mes 18 ans, nous partions 2 mois au camping Beauregard à Marseille en plage. Donc ça, en réalité, ça ne s'invente pas, mais c'était...
voilà. C'était un rituel.
Ah, c'était le rituel que nous attendions.
Mais vous l'attendiez, donc c'est quelque chose qui vous plaisait beaucoup.
Ah oui, ce sont que des souvenirs heureux en famille,
avec des amis, avec mes grands-parents. Que vous retrouviez d'une année à l'autre.
Mes amis qui sont restés, mes amis que j'ai revus il n'y a pas très longtemps, celles de l'été. Mais oui, on avait vraiment des rituels. Et ma mère ne dérogeait quasiment jamais à ces moments de vacances. Elle portait un peu tout le monde sur son dos. Et on partait skier... quelques exceptions près, mais à toutes les vacances scolaires.
Alors maintenant, je pose la question à la petite fille que vous avez été. À quand remonte votre intérêt pour la politique ? Je ne parle pas d'engagement, je parle d'intérêt. À quel moment vous avez découvert la politique ? Est-ce que bien sûr, j'imagine que c'est au sein de votre famille. Vous pouvez remonter un petit peu le temps et nous expliquer ça ?
Très jeune, la chose publique m'a intéressée. Et ça, je le dois à mon grand-père maternel. Mon grand-père Georges, qui en réalité ne ratait pas une émission de télé. C'était 7 sur 7 à l'époque, ou l'heure de vérité, si je me souviens bien. Et on passait beaucoup de temps. J'habitais à 150 mètres de chez mes grands-parents maternels. Donc, on passait beaucoup de temps chez eux, avec eux. Et mes souvenirs très, très petits, c'était avec mon grand-père, qui ressemblait d'ailleurs à Jacques Chirac physiquement. Il était très grand, il était dégarni comme lui. Et il adorait Jacques Chirac. Et je me souviens avoir vu toute mon enfance des émissions politiques. Et très, très jeune, je me suis dit... très, très jeune, je me suis dit, en voyant Chirac, en voyant Barre, en voyant d'autres figures comme ça, des années... 80 à peu près, 75-80.
Oui, donc vous étiez très très jeune, c'était entre 5 et 10 ans ça.
Oui, ou entre 5 et 13-14 peut-être, mais je me suis dit très jeune que convaincre comme ça, par la parole, dans des débats, c'était quelque chose qui déjà me procurait une certaine émotion. Voilà. Je me suis dit la même chose du sport ensuite, donc c'est rigolo, ces deux domaines, le sport encore plus, mais c'est quelque chose qui me séduisait.
Et vous compreniez ?
Ah oui, je comprenais. Quand on ne comprenait pas, mon grand-père nous l'expliquait. Mon grand-père était gaulliste et après chiracien. Et mon premier vote pour les élections présidentielles, c'était en 95, puisqu'en 88, je n'avais pas encore 18 ans. Et mon premier vote, c'est pour Jacques Chirac, tenu par la... Mon grand-père nous a amené voter comme à chaque élection. Et c'est vrai que je me souviens de mon grand-père à 20h, quand il a vu le visage de Jacques Chirac... s'afficher sur son écran télé, dire qu'on allait fêter ça. Et il a rajouté, après 14 ans de socialisme, « Je ne mourrai pas sous la gauche ». Et c'est un souvenir marquant de jeune fille, là, de jeune femme. Et effectivement, mon grand-père, malheureusement, est décédé sous Jacques Chirac.
Voilà, donc il était... il l'avait prédit.
Oui, il l'avait prédit, oui. Ouais, il l'avait prédit. Malheureusement, il l'avait prédit, mais... c'est vrai que très jeune, on a été, formé à ça parce que c'est ce qu'on voyait, c'était ce qu'on voyait dans notre quotidien sur les écrans de télé. Donc petit à petit, j'avais une prédisposition.
Quel était le métier de votre grand-père maternel ?
Il était mineur.
Il était mineur. Mmh. D'accord.
Mineur de fond. Il arrivait de Lorraine.
Je voulais savoir, Laurence, si la littérature a eu une grande place dans votre vie de petite fille.
Alors, on nous lisait beaucoup d'histoires. On avait une maman enseignante, donc on nous a lu beaucoup d'histoires. Alors, je ne me souviens pas, bien sûr, des contes, très certainement. Mais on nous a beaucoup raconté d'histoires, de belles histoires, que ce soit mes grands-parents ou mes parents. Donc, forcément, on est marqué par ça. J'aime toujours lire, c'est un moment où...
Vous avez le temps aujourd'hui de lire ?
Je le prends.
C'est bien.
Pendant les vacances, souvent, mais...
Qu'est-ce que vous aimez lire ?
Là, je viens de lire une évidence et j'ai beaucoup aimé ce livre, mais j'aime un peu tout, mais j'aime les livres et ça vaut aussi pour le cinéma, qui ne sont pas anxiogènes.
Bien sûr.
Mais en même temps, des livres qui racontent la vie. Voilà. Donc, ce sont mes goûts. Je n'aime pas les polars, je ne lis jamais de polars, par exemple. Je lis des histoires, de belles histoires. tristes hein, quelquefois, mais des histoires qui me parlent, qui renvoient à la vie.
Vous avez effectué toute une scolarité sans difficulté. Vous êtes une bonne élève.
Oui.
Oui.
C'est une chance. Nous étions deux bonnes élèves.
Votre choix, après le bac, d'intégrer l'Institut d'études politiques était une évidence pour vous ?
Alors, à la fois, il était une évidence pour tout ce que je viens de vous dire, et à la fois, je voulais être prof de gym aussi. Donc, c'est assez étrange, quoi. Je trouvais, les profs de gym, je trouvais ça extraordinaire. On évoluait dans un milieu d'enseignants, donc forcément, on voyait beaucoup d'enseignants parmi les amis de mes parents. Et franchement, les profs de gym, je trouvais ce métier extraordinaire. Donc, c'est vrai qu'un temps, j'ai pensé faire l'UREPS, ça s'appelait l'UREPS à l'époque, c'était pas,
oui, je me souviens.
C'était pas STAPS. Enfin, à l'époque, oui, bah oui.
Oui, oui, on peut le dire comme ça, Laurence, on a le même âge, donc oui, oui.
C'est pas très grave. Et puis, non, tout naturellement, voilà, je crois que la politique et l'envie de m'engager m'a rattrapée. J'ai adoré ces études politiques, j'ai adoré la culture générale, j'ai adoré apprendre.
Mais justement, on va écouter une première chanson de votre choix. Et tout de suite après, on reviendra sur ces années d'étudiante, Laurence. Alors, cette première chanson que vous avez choisi, c'est Georges Brassens. On l'a évoqué tout à l'heure, vous disiez que ça fait partie de vos jeunes années. Alors, vous avez choisi « Supplique pour être enterré sur la plage de Sète ». Pourquoi justement le choix de celle-ci ?
J'adore cette chanson. Brassens, c'est mon papa. Je crois qu'il était incollable. Il est toujours incollable sur toutes les chansons, sans exception, de Brassens. Il nous amenait à Sète. Et voilà, comme on allait juste à côté de Sète, on est allé sur la tombe de Brassens. Voilà, on prenait la voiture, on allait chez mes grands-parents paternels, qui habitaient pas très loin de Gaillac, et on écoutait Brassens dans la voiture. Donc, au bout d'un moment, on ne peut qu'aimer Brassens. Et cette chanson, elle est à la fois drôle, cynique. J'adore cette chanson.
On écoute.
La Camarde qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé des fleurs dans les trous de mon son nez me poursuit d'un zèle imbécile. Alors cerné de près par les enterrements, j'ai cru bon de remettre à jour mon testament, de me payer un codicille. Trempe dans l'encre bleue du golfe du Lion, trempe ta plume, mon vieux tabellion, et de ta plus belle écriture. Note ce qu'il faudrait qu'il advint de mon corps lorsque mon âme et lui ne seront plus d'accord que sur un seul point, la rupture. Quand mon âme aura pris son vol à l'horizon vers celle de Gavroche et de Mimi Pinson, celle des titis, des grisettes, que vers le sol natal, mon corps soit ramené dans un sleeping du Paris Méditerranée, terminus en gare de Sète. Mon caveau de famille, hélas, n'est pas tout neuf, vulgairement parlant, il est plein comme un œuf, et d'ici que quelqu'un en sorte, que de se faire tard, et je ne peux dire à ces braves gens, poussez-vous donc un peu, place aux jeunes en quelque sorte. Juste au bord de la mer, à deux pas des flots bleus, creusez si c'est possible un petit trou moelleux, une bonne petite niche. De mes amis d'enfance, les dauphins, le long de cette grève où le sable est si fin, sur sur la plage de la Corniche. C'est une plage où même à ces moments furieux, Neptune ne se prend jamais trop au sérieux. Où, quand un bateau fait naufrage, le capitaine crie, je suis le maître à bord, sauve qui peut le vin et le pastis d'abord. Chacun sa bonbonne et courage. Et c'est là que jadis, à 15 ans révolus, à la joue s'amuser tout seul ne suffit plus.
Bon Laurence, on est obligé de couper parce que c'est vrai que c'est une chanson qui est très belle, mais elle dure 7 minutes. Et je veux garder du temps parce que j'ai tellement encore de questions à vous poser. D'abord, merci pour ce choix parce que c'est vrai, c'est toujours très, très sympa d'écouter Brassens. Donc, vous avez votre bac en même temps que votre sœur. J'imagine que vous venez étudier toutes les deux à Toulouse en colocation.
Oui, évidemment. Ah. En colocation, dans un premier temps, on nous prêtait un petit appartement rue Estrepin, dans le quartier de Bagatelle. Oui, on est en colocation, effectivement, pendant quelques années. On est à la même fac. On a quasiment... on n'a pas les mêmes amis, mais on se retrouve assez régulièrement. Je dis à mes enfants, là, aujourd'hui, profitez. C'est de très belles années, les années d'étudiants. D'abord, on avait quitté le cocon familial, même si on y retournait tous les week-ends. Mais, les années de fac, j'aurais pu étudier pendant 15 ans. J'ai adoré ces années de fac.
Alors, les études vous plaisaient, un grand sentiment de liberté.
Oui, un sentiment de liberté.
Mais quand même avec votre sœur.
Oui, un sentiment de liberté et de sécurité.
Et de sécurité,
on est toujours plus fortes quand on est toutes les deux, donc forcément.
Bien sûr.
Voilà, même si là... Nos chemins se sont un peu plus séparés puisque, effectivement, elle était en éco et puis moi, j'étais à Sciences Po en face. Mais malgré tout, plus ou moins à la même fac et puis on se retrouvait le soir. Après, quelques années plus tard, on avait chacune notre appart, mais très souvent dans le même immeuble, en réalité.
Ah oui, vous êtes...
Après, on a été pionnes toutes les deux. Enfin, voilà, on a à peu près fait la même chose en même temps, quoi.
Qu'est-ce qui vous reste comme souvenir de ces années ?
Oh, mais franchement, que du bonheur. Oui, que du bonheur, des moments de liberté, de fête. J'ai rencontré celle qui allait devenir mes meilleures amies, que je vois toujours aujourd'hui. Donc, ouais, forcément,
c'est important pour vous,
années.
L'amitié.
Ah oui, l'amitié, c'est capital pour moi. La famille, l'amitié, je crois que c'est ce qui procure le plus d'émotions. Et puis, c'est surtout ce sur quoi on se retourne quand... quand on a des coups durs, en fait, dans la vie, voilà. Et quand on... Ça nous... Généralement, ce sont les amis et la famille qui vous font relativiser quand vous avez des hauts et des bas, par exemple, dans le milieu dans lequel j'évolue, celui de la politique. On gagne, on perd, on a des déceptions, des désillusions, puis on regagne. Et c'est dans les moments un peu down que les amis, c'est capital, oui.
Qu'est-ce que vous vouliez faire ? Enfin, c'est pas le mot, c'est... Quand vous aviez 20 ans, Laurence, comment vous imaginiez votre vie d'adulte ?
Je pense que je pouvais la rêver comme elle est aujourd'hui, en fait. Voilà.
C'est magnifique, c'est-à-dire, ça. C'est-à-dire que vous avez accompli vos rêves.
Oui, certainement. Je crois que j'aurais pu rêver de ça. Je ne me souviens pas de quoi je rêvais en particulier. Mais ce qui est sûr, c'est que je voulais une famille unie. Je voulais avoir mes parents auprès de moi, ma sœur, mes amis. Donc je crois que, oui, j'ai aujourd'hui, évidemment, tout ça est évidemment très fragile. Mais je crois que c'est ce que je crois que j'aurais pu rêver de ce que je vis aujourd'hui.
Pensez-vous que pour pouvoir faire de la politique, il vaut mieux, comme vous venez de le dire, justement, être complètement équilibré, avoir une vie de famille très unie, avoir des amis sur qui on peut compter? C'est beaucoup plus simple pour les désillusions, justement, de la politique.
C'est plus simple et c'est plus simple parce que ces gens-là... que je connais depuis toujours, c'est votre base, c'est votre socle, c'est ceux qui vous remettent les pieds sur terre quand, quelquefois, on pourrait les décoller, on va dire. Donc, c'est clair que c'est très important, ça, d'avoir l'entourage. Le mot entourage, il est très joli, en fait. Voilà, ceux qui vous entourent, quoi. dans les bons et dans les mauvais moments. Et oui, c'est essentiel. C'est essentiel. Et ça se préserve, ça se travaille, ça se préserve, ça s'entretient. L'amitié comme le reste. Donc, je crois beaucoup aux relations humaines. C'est vraiment essentiel.
Quand vous étiez petite, vous avez fait 15 ans de sport. Vous arrivez à Toulouse, vous avez votre vie d'étudiante, vous travaillez, il y a les copains, vous sortez, vous menez votre vie d'étudiante, vous faites la fête, bien sûr, et c'est normal. Est-ce qu'il y a une place pour le sport à ce moment-là ?
Ah oui, je continue, j'allais dire on encore, vous voyez.
J'aurais dû inviter votre sœur à venir participer à l'émission.
N'hésitez pas, la prochaine fois, elle s'appelle Karine. Oui, je fais du sport. Je fais du sport à la fac. On s'inscrit dans des salles de gym avec les copines. Alors ça va, ça vient. On va courir, on va marcher, on fait du yoga. On a à peu près tout testé. Évidemment, la gym me manque beaucoup à ce moment-là parce que c'était une vraie discipline. C'était beaucoup d'entraînement, de la compétition. Ça manque, hein, le sport quand on arrête. Mais je fais toujours du sport. En tous les cas, c'est un moyen de se détendre, de se défouler, d'extérioriser... la pression quelquefois, et c'est marrant que j'ai voulu toujours dans un milieu sportif, j'ai épousé un sportif, je suis adjointe au sport, donc le sport a une place dans ma vie très importante.
Il n'y a pas de hasard ?
Non, je crois qu'il n'y a pas de hasard, le sport, la famille, la politique, c'est quand même quelque chose qui ont rythmé mon enfance et qui
bien
rythme
sûr,
ma vie.
Bien sûr, on le voit toujours forcément, il y a une continuité, bien sûr.
C'est ça.
Alors en parlant de politique, là maintenant on est sur Laurence au tout début de sa vie de femme. À quand remonte votre engagement politique ? À quel moment vous décidez de vous engager ?
Quand je reviens vivre à Toulouse, puisque j'ai vécu six ans à Rennes, quand je reviens vivre à Toulouse, j'ai rencontré Jean-Luc Moudin, qui était maire.
En quelle année ?
En 2008. Donc certainement, ça devait être en 2007. Et je lui ai fait part de mon envie de participer à l'aventure. J'étais évidemment pas encartée au sens politique du terme. J'avais évidemment mes idées, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais voilà, je rencontre Jean-Luc Moudin et on échange et il me propose de faire partie de l'aventure en 2008. Et évidemment, j'accepte, je suis très honorée qu'il me propose une place sur sa liste. Et donc, c'est le début de mon engagement politique, il est à ses côtés en 2008 avec une issue malheureuse. Cette fois-là, on en aura de beaucoup plus heureuses ensemble après. Mais en 2008, on perd l'élection. C'est mon premier engagement politique. Deux ans après, je serai élue conseillère régionale. Ce sera mon premier mandat, pour le coup. Et puis, deux ans après encore, en 2012, Jean-Luc Moudin se présente aux élections législatives. Et il me propose d'être sa suppléante. Et là, c'est là que j'ai vraiment pris goût à l'engagement à ses côtés. C'était une expérience extraordinaire, inoubliable. Évidemment, qui s'est soldée par le fait qu'on ait arraché cette circonscription dans un contexte politique plutôt défavorable, puisqu'en général, quand le pouvoir est à gauche, c'est plus compliqué de gagner une élection législative. Et on gagne cette législative, il est élu député, je suis sa suppléante. Et là, j'ai vécu une campagne de A à Z et c'est là que j'ai tout appris à ses côtés.
Et vous apprenez vite ?
Je ne sais pas si j'apprends vite, mais j'ai pris goût à ça, à cet engagement, au fait d'aller convaincre, au fait de faire campagne. C'est autant, évidemment, être élu, c'est extraordinaire, mais une campagne, c'est aussi de très, très beaux moments où il faut beaucoup donner, certes.
C'est de l'adrénaline.
Oui, c'est de l'adrénaline. On revient au sport.
C'est comme un match.
Il faut tout donner et c'est jamais perdu. Même dans le money time, il faut encore se battre. Et oui, j'aime ça, c'est challenge. Et donc, on est élu en 2012. Et ensuite, je fais partie de l'aventure de 2014. Et en 2014, il me propose d'être numéro 2 sur sa liste. Et là, on gagne en 2014. On gagne et là, c'est le début d'une autre aventure. Puisque dans la foulée, il démissionne de son mandat de parlementaire, comme il s'était engagé d'ailleurs auprès des Toulousains.
Bien sûr.
Peu de personnes ont fait ça d'ailleurs, je le salue chaque fois. Et là, il me fait cadeau, parce que c'est un cadeau. Et il me dit, c'est toi qui vas y aller, et puis tu vas te présenter en 2014 sur une élection partielle, hein, parce que il démissionne de son mandat, donc il y a une élection, hein, on ne m'a pas donné la circonscription. Et donc, je suis élue parlementaire en 2014. Et c'est vrai que tout ça, je le dois au maire de Toulouse, je le dois à Jean-Luc Moudin, qui a cette aventure formidable qu'on a vécue et que j'ai vécue à ses côtés.
Vous arrivez à tout concilier, vos mandats, votre vie de famille, votre vie de femme.
Alors, j'ai comme mandat, hein, je suis, enfin, de mandat, puisque je suis conseillère métropolitaine, mais j'ai été battue, et donc je ne suis plus parlementaire depuis 2017. C'est pas facile, hein, de tout concilier. C'est pas facile pour des enfants, pour des ados ensuite, d'avoir des parents qui sont impliqués dans la vie publique. C'est pas facile tous les jours. Mais je crois pouvoir dire que... Ben, là aussi, on s'appuie aussi sur sa famille. Hein. On a une sœur, une maman qui habite à côté, et des beaux-parents qui habitent pas très loin. Et du coup, on s'organise. Je suis assez organisée, un peu trop à leur goût d'ailleurs, un peu trop militaire. Mais je crois que c'est le fruit de l'organisation qui fait
et
que...
Et c'est peut-être nécessaire, effectivement,
ouais,
pour pouvoir tout concilier.
On s'en est pas trop mal tiré, en fait. Enfin, pour le moment.
Quel est votre rapport à Toulouse ?
Ah, j'adore cette ville. J'étais tellement contente quand je me suis dit... on va partir, là, on avait quand même fait nos études à Carmont, et là, on me dit, tu vas faire tes études à Toulouse, quoi. C'était, j'avais l'impression d'aller à la capitale. En réalité, j'adore cette ville. Elle est belle.
Développée ?
Non, je sais pas, je me sens bien dans cette ville. J'ai vécu 6 ans à Rennes, et j'ai beaucoup aimé Rennes. C'est là que j'ai construit ma famille, c'est là que mes enfants sont nés, donc je suis évidemment aussi attachée à la Bretagne. Mais Toulouse, c'est ma ville d'étudiante, c'est la ville où j'ai fait la fête, c'est la ville où j'ai fait mes plus belles rencontres. Voilà, j'adore me promener dans Toulouse toute seule. J'adore aller courir au bord du canal. J'aime cette ville, tout est beau dans cette ville.
Tout. Et vous aimez les Toulousains ?
Oui, j'aime les Toulousaines et les Toulousains. Je trouve que c'est une population chaleureuse. On est dans le sud, voilà, au-delà de la météo. On est dans le sud, la convivencia, comme dirait... le maire de Toulouse ou son premier adjoint. Donc forcément, c'est une qualité de vie. On a beaucoup de chance de vivre ici.
Oui, bien sûr, on a beaucoup de chance. Et en plus, on a la météo qui va avec la jolie ville. Donc c'est vrai qu'on est particulièrement gâtés à Toulouse. Laurence, je vous propose d'écouter une deuxième chanson. Alors, vous avez choisi Barbara, les Insomniés. Alors...
Oui, c'est vrai que les goûts musicaux ne sont pas très actuels.
Non, mais bon...
Je vous l'accorde. Je l'accorde, Irène.
Non, mais ça me va très, très bien parce que je suis... le président vous dirait que je suis Radio Nostalgie à moi toute seule. Donc là, on va parfaitement bien s'entendre par rapport au choix. Alors, celui-ci, à quoi correspond-il ?
Alors, Barbara, c'est... ma mère nous a traînée à la Halograin il y a de nombreuses années pour écouter Barbara. Nous avions quitté la campagne albigeoise et c'est vrai qu'elle m'a fait découvrir Barbara. Donc j'écoute Barbara, j'adore Barbara. Alors cette chanson, elle est particulière parce qu'elle est, là encore, comme celle de Brassens, Barbara, c'est plutôt triste en général. C'est pas quelque chose qu'on écoute pour faire la fête. Hein. C'est plutôt quelque chose qu'on écoute quand on est un peu nostalgique. Mais moi, j'arrive à écouter Barbara comme Brassens dans les moments où... d'euphorie ou dans les moments plus tristes. Donc, là encore, ce sont les chansons de mon enfance. Alors, celle-là, elle est un peu particulière parce que, comme ma mère, j'ai un gros problème de sommeil. Et donc, je suis assez insomniaque, pour tout vous dire. Et cette chanson, il faut que vous écoutiez les paroles. Mais...
Qu'est-ce que vous faites la nuit ? Vous lisez ? Vous travaillez ?
Je peux manger aussi.
Ah, ça ne se voit pas.
Je mange. Je me lève ou alors je quand des moutons, comme Barbara.
D'accord, alors on écoute Barbara.
Avoir tant de gens qui dorment et s'endorment à la nuit, je finirai par comprendre qu'il faut que je m'endorme aussi. Avoir tant de yeux qui se ferment couchés dans un lit, je finirai, c'est fatal, par pouvoir m'endormir aussi. J'en ai connu des grands, des beaux, des bien bâtis, des gentils, qui venaient pour me bercer et combattre mes insomnies. Mais au matin, je les retrouvais endormis dans mon lit, pendant que je veillais seul en combattant mes insomnies. À force de compter les moutons qui sautent dans mon lit, j'ai un immense troupeau qui se promène dans mes nuits. Qu'ils aillent brouter ailleurs, par exemple dans mon prairie, labourage et pâturage ne sont pas mes travaux de nuit. Sans compter les absents qui me reviennent dans mes nuits, j'ai quelquefois des vivants qui me donnent des insomnies. et je gravis mon calvaire sur les escaliers de la nuit. J'ai déjà connu l'enfer, connaîtrai-je le paradis? Le paradis, ce serait pour moi de m'endormir la nuit. Et je rêve que je rêve qu'on a tué mes insomnies, et que pâle en robe blanche, on les a couchés dans un lit. À tant rêver que j'en rêve, les revois dans mes insomnies. Je rôde comme les chats, je glisse comme les souris, et Dieu lui-même ne sait pas ce que je peux faire de mes nuits. Mourir ou s'endormir, ce n'est pas du tout la même chose. Pourtant c'est pareillement se coucher les paupières closes. Une longue nuit où je les avais tous deux confondus, peu s'en fallut au matin que je ne me réveille plus. Mais au ciel de mon lit, il y avait les pompiers de Paris, au pied de mon lit, les adjudants de la gendarmerie. Oh messieurs, dites-moi ce que vous faites là, je vous prie. Madame, nous sommes là pour veiller sur vos insomnies. En un cortège chagrin viennent mes parents, mes amis. Gravement, au nom du Père, du Fils et puis du Saint-Esprit. Si après l'heure, c'est plus l'heure avant, ça ne l'est pas non plus. Ça n'est pas l'heure en tout cas, mes grands-mères, si d'être venues. Je les vois déjà rire de leurs fines plaisanteries. Ceux qui prétendent connaître un remède à mes insomnies, un médecin pour mes nuits, j'y avais pensé moi aussi. Mais c'est contre lui que je couche mes plus belles insomnies. Avoir tant de gens qui dorment et s'endorment toute la nuit, j'aurais fini, c'est fatal, par pouvoir m'endormir aussi. Mais si s'endormir c'est mourir, je préfère mes insomnies. J'aime mieux vivre en enfer que de dormir en paradis. Si s'endormir c'est mourir, rendez-moi mes insomnies. J'aime mieux vivre en enfer que de mourir en paradis.
Merci Laurence pour cette chanson. C'est toujours très sympa d'écouter Barbara, c'est même émouvant. Jacques Lavergne, le président de notre radio, nous a rejoint parce qu'il avait quelques questions à vous poser. Bonjour Jacques.
Bonjour Irène, bonjour Madame Arribagé. Non, je merci d'abord de m'accueillir Irène dans votre émission où je ne suis venu qu'en curieux, je ne connaissais pas Madame Arribagé et donc c'est uniquement cette curiosité qui m'a mené jusqu'à vous pour vous écouter en direct, mais je ne poserai bien évidemment aucune question. En plus vous savez que je suis bavard, donc si je vous prends l'antenne je ne vous la rendrai pas. Donc voilà, je ne serai là qu'en simple spectateur, je vous écoute mesdames.
Laurence, si vous aviez l'occasion de faire un vœu, vous qui êtes une femme tellement gâtée par la vie dans bien des domaines, quel serait ce vœu ?
Elle n'est pas facile cette question. Merci d'abord pour ces mots adorables, mais le seul vœu, c'est que ça continue le plus longtemps possible, évidemment. Mais bon, je sais aussi que la vie, c'est des hauts et des bas. J'ai une tendance quand même à l'optimisme et à retenir que les bons moments. Donc j'espère que tout ce qui fait que je suis une femme heureuse aujourd'hui va perdurer. Voilà, garder ma famille, mon socle, mes amis le plus longtemps possible. Ça ne veut pas dire que la vie a été un long fleuve tranquille. Quand vous dites que j'ai tout,
oui,
la vie de tout le monde est faite de haut, de bas, d'épreuves, de moments heureux et de moments plus difficiles.
Et comme vous dites, il faut continuer à garder que les moments positifs.
Oui, et je crois qu'il faut être optimiste, en fait.
Bien sûr.
Battant, optimiste. Et voilà, et continuer à aimer la vie comme je l'aime aujourd'hui. Je crois que c'est ce vœu-là que je voudrais faire, que ça continue le plus longtemps possible.
Alors, je vais vous poser une question. Certains diront une question piège, mais je vais vous demander de me citer un restaurant où vous aimez sortir à Toulouse. Alors, évidemment, vous allez me dire oui, mais je voudrais citer tous les copains. Mais un endroit où vous aimez aller.
Alors, on me demande souvent ça et après, ça crée des histoires impossibles. Je vais citer le bar d'une de mes très bonnes amies, qui est le bar du matin, Place des Carmes.
Oui.
Parce que c'est là que je me retrouve avec ma sœur et mes deux amis. Comme ça, je suis sûre que ça ne fera pas d'histoire avec les autres.
Voilà, mais en plus...
mais on n'y dîne pas.
Voilà, c'est ce que j'allais vous répondre. Ce n'est pas un restaurant, donc je ne suis pas complètement satisfaite de la réponse. Mais
je vais vous en citer un peut-être, mais, ou deux. J'aime bien parce que j'habite pas très loin, dîner... à la Tantina de la Playa.
Oui, d'accord.
Voilà, parce que j'aime l'ambiance, j'aime cet endroit simple, chaleureux, on y mange bien. Mais j'aime bien d'autres restaurants à Toulouse. Mais c'est là aussi, quelquefois, qu'on se retrouve entre amis ou en famille. Donc j'aime bien aussi la Tantina de la Playa.
Un petit mot sur le décès de Jacques Chirac.
Bah, j'étais forcément très émue et très touchée. Je ne l'ai pas connu personnellement, Jacques Chirac, mais c'est vrai que c'est mon premier vote. C'est mon premier vote en 1995, mon premier vote présidentiel. Et il a rythmé tout mon engagement politique, en fait, puisque Jacques Chirac, c'est quasiment 40 ans, 50 ans de vie politique. Donc, c'est lui qui a créé la formation politique dans laquelle je suis aujourd'hui, qui a certes changé de nom plusieurs fois, mais voilà, c'est une figure de la droite de ma famille politique, Jacques Chirac. Et puis, c'est quelqu'un que j'ai toujours vu. C'est comme s'il faisait partie de ma famille depuis toute jeune. Donc, forcément, beaucoup d'émotions. Énormément d'émotions. C'était un humaniste, Jacques Chirac, qui aimait la France et les Français, et les hommages qu'on voit se multiplier depuis plusieurs jours montrent que c'était une figure à laquelle les Françaises et les Français étaient très attachés. Voilà. Et c'est pas si, il faisait pas semblant, Chirac. Il venait des territoires, du terroir. C'était un terrien. Et ça se voyait, et les hommages qui lui sont rendus aujourd'hui ne trichent pas. Et c'est, voilà. On ne pouvait qu'aimer Jacques Chirac. On pouvait contester son action. Certains n'étaient pas d'accord avec lui, mais les mêmes aujourd'hui reconnaissent leur attachement à sa personne.
Les valeurs de la Terre.
Oui, les valeurs de la Terre, les valeurs humanistes. Voilà. L'humain. Jacques Chirac, c'était l'humain. C'était un humaniste.
Merci, Laurence. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission « Ainsi va la vie ». Alors, en ce qui concerne l'émission, pas d'émission semaine prochaine exceptionnellement, ni semaine suivante, mais vous retrouverez dans 3 semaines avec très, très grand plaisir. J'ai été ravie aujourd'hui de recevoir Laurence Arrivager. Je vous souhaite une excellente continuation. Merci beaucoup, Laurence. Au revoir.
Son hiver. Ainsi vont les si et les mais pourtant, ainsi va la vie comme un invité mystère.